Salut meuf, je te sers un truc ?
Je veux bien un petit caf, s'il te plaît.
En plus, il faut que je te raconte une histoire.
Oh, waouh. Coucou Pauline.
Coucou Lisa.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Bah ouais, ça va.
Ça fait longtemps.
Purée, ça va faire 2 semaines qu'on n'a pas sorti un épisode.
On vous doit peut-être une petite explication, les libellules.
Ah ouais, tu crois ?
Non ?
Si, vas-y.
Je sais que tu voulais
un
peu.
Je sais pas si je suis assez à l'aise avec eux. On a des nouveaux arrivants.
Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux auditeurs, aux nouvelles libellules qui nous suivent.
La vache, les gars, vous n'avez pas idée du nombre de gens qui a augmenté. C'est abusé. On est trop contentes. Hein. Attention, ne vous méprenez pas.
Ouais.
On est très contentes.
On suit pas du tout la cadence, on réalise pas.
Non.
Donc, on a toujours l'impression que vous êtes 10 à écouter notre grosse vie qu'on va raconter.
C'est ça.
Mais en fait, vous êtes peut-être 5000. On sait pas trop.
C'est abusé. Donc, et si jamais Anna écoute le fameux podcast,
merci.
Déjà, merci de ouf. Et puis, on est contente que l'épisode ait plu, les épisodes, comme pour tous ces gens qui nous ont rejoints,
ouais.
Toutes les nouvelles petites libellules, les petits
Merci
gars,
pour
quoi.
Vos retours, franchement, ça nous touche de ouf, nous, quand on s'est lancé, on voulait juste raconter nos petites vies, nos petites vies chiantes, en fait, qu'on vivait. Et au final, on se rend compte que
Faire
beaucoup d'entre
thérapie,
nous,
meuf,
mais
hein.
c'est ça, se retrouvent dans ce qu'on raconte, et donc ça nous pousse encore plus à nous livrer, parce qu'on a tellement de retours que ça nous fait du bien.
Ouais.
Donc voilà, merci.
Ça fait trop plaisir.
Et pour revenir du coup sur le fait qu'on n'ait pas, lancé l'épisode de la semaine dernière, on avait décidé, comme là on va le faire, d'aborder un thème qui s'appelle « PS, on n'a pas pécho ». Or, vous vous doutez bien que pour parler de ce sujet-là, il faut nous-mêmes qu'on fasse une petite introspection de nos relations, de nos ex, de nos anciens crushs. C'était trop. On n'a pas du tout suivi la cadence. Les informations étaient beaucoup trop nombreuses à prendre en compte. Donc, on s'est posé et on a décidé de faire un truc un peu plus carré, mais histoire de ne pas être prise par nos émotions en plein milieu de
Il y a certains traumas qui sont toujours frais, quoi. Donc
les blessures
donc
sont peut-être tranquille. Un peu à vivre.
C'est ça. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Pauline, on va parler de péchotage, de crush, d'amour, de love,
ouais.
Mais bien d'autres choses, puisque ça va plus loin que ça, toujours on
Évidemment.
Pousse l'analyse au maximum. Donc pour commencer cet épisode, vous savez maintenant, on aime bien commencer par des petites définitions, et on avait envie de parler de la définition du mot crush. Qu'est-ce que c'est exactement ? À partir de quel moment on dit j'ai un crush sur quelqu'un, que ce soit un mec, une meuf etc. Donc avoir une définition de ce terme-là. Et justement, on vous a demandé sur Insta d'avoir vos petites définitions. Après, nous, vas-y, on va vous donner les nôtres. Mais chaque chose en son temps.
Merci d'avoir répondu d'ailleurs, parce que ça nous fait trop plaisir quand on vous voit tous réagir à nos stories ou répondre à nos questions. Ça nous aide trop à créer du contenu, donc merci.
Donc vous avez été hyper nombreux à répondre, comme l'a dit Pauline à l'instant. On en a pris genre 2-3, pas plus, mais il y a plein de réponses. Et ouais, merci de ouf de participer à nos petites interactions.
On a plein de copains, nous.
Je m'en mets toujours pas. Hein, non, vraiment, ça temporise pas du tout de mon côté. Donc du coup, dans les petites réponses qu'on a eues, on a quelqu'un qui nous a dit c'est entretenir une relation ambiguë avec quelqu'un. Je suis plutôt d'accord,
ouais.
Ça dépend des cas, mais...
La notion d'ambiguïté, elle est bien, là.
Ouais, de ouf. On a une personne que tu kiffes secrètement ou non, plus souvent sans réciprocité. Et ça, effectivement, on va y venir à cette notion de réciprocité qui n'est pas toujours présente, finalement.
C'est rare,
hein.
C'est rare. Hein.
Ouais, de ouf. On a des gens qui ont autant la haine que nous. Quelqu'un qui a dit « une perte de temps, hashtag haine ».
On aurait pu le dire, ça.
Toi, on va t'inviter. La prochaine fois qu'on parle de péchotage, de crush, tout ça, tu vas nous raconter ton expérience.
Pourquoi on en arrive à hashtag haine.
Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre intéressant ? Il y a eu des poèmes qui ont été partagés aussi, qu'on
Très
a lus tout à l'heure. On vous l'épargne parce que c'est en anglais. Et
on n'a pas l'accent qui va
ouais,
avec.
Voilà. Donc on vous épargne ça, les gadjos. Une personne que tu trouves méga BG, mais à qui tu n'as jamais parlé. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Ah oui, il y en avait un qui était bien. Quand tu imagines plus d'une relation sans que la personne ne le soupçonne. Et effectivement, ça, on va... Il y a une mouche dans le champ.
C'est pour que je joue. Ref au dernier épisode.
Faut avoir la ref, hein. Si vous avez la ref, c'est que vous nous écoutez assidûment. Donc justement, pour revenir sur le dernier point, quand tu imagines plus d'une relation sans que la personne ne le soupçonne, c'est un truc dont on va parler juste après. Mais avant ça, je me questionne.
Questionne-toi.
Pauline,
oui.
C'est quoi pour toi un crush ?
Alors, je pense qu'au fur et à mesure de la vie, tu changes un peu de définition. Mais je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a proposé sur Insta, parce qu'il y a tellement de définitions.
Elle t'est pas problématique.
Et moi, je suis juste d'accord avec tout le monde. Je suis la Suisse. Non, je rigole. Non, moi, je pense que vraiment, le truc qui marque, c'est la projection. On en parlait tout à l'heure avec Lisa. Et c'est cette notion, en fait, tu vois le potentiel de quelqu'un. Tu le connais pas forcément. Mais tu te dis, de ce que je vois, de ce que je peux savoir, cette personne peut correspondre à mes attentes. Donc, tu développes un crush sur lui ou sur elle. Et après, en fonction de si t'apprends à le connaître ou autre, tu changes d'avis, tu dis en fait non, je rigolais. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une projection. Tu peux pas forcément être super rationnel quand t'as un crush sur quelqu'un. Et après, ça se développe soit en sentiment, soit en coup de cœur, etc. Mais au premier abord, c'est juste, il y a un petit potentiel.
Ouais.
Et pour toi, c'est quoi du coup ?
Bah, je te rejoins vachement là-dessus. Moi, j'ai eu plein de types de crush différents. Genre des trucs qui vont durer une seule journée où juste je vois un mec... je sais pas, un pote de pote de pote à qui j'ai jamais parlé, où je suis là, mais toi, mon grand, j'ai un énorme crush sur toi. Ça
tu le sais pas encore, mais on va se marier.
Voilà, c'est ça, j'ai déjà prévu notre maison à la campagne, notre appartement dans le sud de la France. Non, c'est souvent très éphémère, ce genre de crush. Et à l'inverse, il y en a d'autres où... Je balance l'anecdote d'entrée de jeu comme ça c'est fait. Dites-vous, les petits gars là, j'ai eu un crush à un moment donné sur un de mes potes.
Coucou à toi, qui, passe pas.
Qui ne sait pas, hein. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Pendant vraiment très longtemps, ça se compte en mois, peut-être même en années, on sait pas, tu vois. Mais j'ai eu un crush monumental sur ce mec là. Et en fait, ce crush là, il a été alimenté par justement. Toutes les scènes, toute la projection que je m'étais faite de la potentielle relation qui pouvait exister. Et à partir du moment où, voilà, enfin j'en ai parlé autour de moi, machin, en mode « Mais ce mec, mais je pense que je l'aime », genre de là à me dire « Putain, j'ai des sentiments amoureux pour lui, quoi ». Alors que, pas du tout, absolument pas. Et j'en ai parlé à notre psychologue, qui m'a vraiment dit « Mais madame, non ». C'est tout ça, là, tout ce portrait que vous avez tiré est entièrement faux. Donc vraiment, ouais, pour dire que les crushs, ça varie énormément. Ça peut être un truc juste un instant T où tu trouves un mec mignon, et au final, ou une meuf, hein, bien sûr. Et au final, tu lui parles, tu te rends compte que ça, mentalement, ça ne matche pas. Ou alors, ça peut être effectivement le fruit de ton imagination, de toute la projection que tu peux te faire, etc. Et je pense que ce qui peut être intéressant, ce serait peut-être de faire un petit voyage dans le temps, Pauline, qu'est-ce que t'en penses ?
Ça, c'est le retour en arrière.
Ah ouais, ça fait très « qui veut gagner des millions », tu sais, quand t'as les lumières qui s'éteignent, là. Pauline, je vais te poser une question.
Ouais.
Une question que je pose, vous qui nous écoutez, on vous l'a déjà posée quand vous étiez petit. Donc là, vraiment, on va vous demander de faire un exercice avec nous. Et je me rapproche du micro. Vous allez fermer les yeux, je rigole. Mais donc une question qui revenait beaucoup quand on était jeune. Et je vais te la poser, Pauline, et je vais te répondre sincèrement. Toi, quand t'étais petite, j'entends genre maternelle, primaire, tu vois, où t'es quand même consciente un minimum des choses. Est-ce que t'avais un petit amoureux ? C'est qui tes amoureux à l'école ? Avec cette intonation-là de voix, là.
Toi, t'as un petit amoureux ? Je n'avais pas d'amoureux, ok ? On va mettre les choses au clair. Moi, je suis anti-société.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.
Non, mais c'est pas ça, c'est que... Donc, je n'avais pas d'amoureux quand j'étais petite. Et j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu vraiment, pendant très longtemps, j'ai eu honte. Parce que même encore aujourd'hui, je me qualifie comme quelqu'un qui n'a pas eu énormément de relations ou de vraies relations de couple. Je sais pas ce qu'est le vrai couple. Et quand j'étais petite, vraiment cette espèce d'injonction de « il faut avoir un amoureux », ça m'a traumatisée. J'ai eu l'impression que mon seul but sur Terre était de revenir de l'école et dire « c'est bon, j'ai un amoureux » ou « c'est bon, j'ai un copain ». Et en fait, tu te dis, mais déjà, j'ai 4 ans et demi, frère. Je sais même pas si j'aime les filles, si j'aime les garçons, si j'aime les deux, si j'aime personne. Et on me met déjà dans une case de « tu es... genre ta réussite sera relationnelle. »
C'est ça.
Et ça m'a mais créé un blocage, je pense, à vie, de me dire que je réussirai ma vie le jour où j'aurai un amoureux, une amoureuse, peu importe quoi. Et en fait, moi, je sais qu'au fur et à mesure, j'en souffrais parce que je me disais, mais j'ai personne m'attire. Enfin, après, en même temps, on demande ça à des gosses de 6, 7 ans. Enfin, comment tu peux être déjà dans un rapport de à moitié, enfin, séduction bizarre, de presque, c'est très dur ce que je vais dire, mais presque sexualiser des enfants en les mettant déjà dans des rôles d'adultes. Parce que pour moi, la relation, le vrai amour, les vrais amoureux, etc., ça se développe avec le temps. C'est pas un truc que t'as à 3 ans et demi, 4 ans, où tu sais même pas compter, frère. On te demande, est-ce que t'es déjà dans un rapport de relation? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train déjà d'essayer de faire d'enfants les futures cibles de dépendance affective en leur posant que cette question. Ça, c'est ma grosse remise en question. Voilà, c'est peut-être un peu haineux, mais je me dis...
Mais en vrai, meuf, oui, en même temps, parce que t'as tellement... Fin... d'autres préoccupations quand t'es petit, enfin, on en a parlé dans l'épisode sur l'amitié, t'es déjà dans 1000 questionnements de tu comprends pas la vie, t'as tout simplement un cerveau d'enfant qui réfléchit pas, que tu rentres chez toi, les questions que ta famille va te poser, c'est oui, alors t'as un petit amoureux, une petite amoureuse, machin, et pareil, enfin, là je le vois, mais en tout cas en repas de famille, quand j'ai mes petits cousins, petites cousines, machin, qui sont tout jeunes, j'entends les discours des grands-parents et tout. Alors par contre, des parents eux-mêmes, non. Donc ça, j'ai l'impression que ça change un peu, tu vois. Mais c'est trop, t'es trop jeune pour te poser ces questions-là.
Exactement, et moi je pense du coup que ça m'a créé un gros blocage et que je me sentais déjà pas normale, alors qu'il n'y avait pas de normes à cet âge-là. T'es pas censée te comparer à des enfants, enfin sur est-ce que t'es un amoureux, une amoureuse. Et je me rappelle avoir été trop mal dans ma peau, surtout fin primaire, parce que je voyais des filles qui étaient en mode, j'ai un amoureux, on est déjà en couple et tout. J'étais, on a 9 ans et demi. Et moi, je me sentais trop bizarre de me dire, mais aucun garçon, enfin, j'ai pas envie. Là, j'aimerais juste être tranquille dans ma vie. Déjà, les relations, ça va prendre un... Si tu sais à quel point ça va prendre un poids dans ton existence après, tu dis, mais laissez-moi au moins 10 ans de ma vie tranquille. Et moi, ça m'a directement créé une espèce de croyance limitante de j'aurai jamais de copain. Et ça a commencé, du coup, dès cette période-là, maternelle, primaire. Et je trouve ça affreux.
Et puis en plus, ça fausse les sentiments que tu peux éprouver quand t'es un enfant, donc pas forcément sentiments amoureux, mais on te dit déjà de savoir différencier les enfants que tu considères comme tes amis et les enfants que tu considères comme étant justement ton amoureux, ton amoureuse. Mais comment tu peux réussir à discerner ça quand c'est justement les premières interactions? Enfin, on te dit ça, t'es en maternelle primaire, tu découvres la vie depuis, je sais pas, depuis moins de 3 ans, tu te fais des amis et tout machin. Comment tu peux être apte à discerner si y a un enfant que t'aimes bien un peu plus que les autres, si c'est juste parce que tu t'aimes bien jouer avec lui, c'est parce que tu l'aimes, c'est parce que t'es son ami, enfin, tu ne sais pas discerner ces émotions-là, donc c'est trop bizarre que on te le mette dans la tête comme ça d'entrée de jeu quand t'es petit, quoi.
C'est clair. Et toi, du coup, non plus, je comprends pas du tout. Et surtout, enfin, il y a aussi le truc de tout de suite, ça va être très hétérocentré, tu vois. On va jamais dire à un enfant, t'aimes bien quelqu'un, t'as une amoureuse ou un amoureux. Et je trouve nous, peut-être, nos enfants de notre génération, ils auront peut-être plus cet éveil-là. Mais nous, dans notre génération à nous, t'as aucun parent qui allait dire, alors tu peux être amoureux d'un garçon, d'une fille. Moi, ma mère, elle a un peu tâtonné plus quand j'étais au collège, parce que justement, le fait de pas avoir d'amoureux, elle était en mode, t'es chelou un petit peu, t'aimes les meufs. J'étais, non, c'est juste que là, je sais pas, frère. Et je pense qu'il y a tout ce truc-là où on sexualise super, beaucoup trop tôt, et ça te crée justement déjà une perte de confiance en toi. Et toi, du coup, Lisa, comment as-tu vécu
la confiance en toi
par rapport à tout ça? Comment as-tu vécu ces périodes-là, amoureux, machin, et avec ton image, tout ce qui s'ensuit?
Moi, dans le groupe de copines que j'avais, justement, c'est un truc hyper récurrent de les garçons, machin. Donc en fait, je me suis un peu faxée sur elle, comment est-ce qu'elle vivait les choses, sans savoir moi trop ce que j'en pensais, parce que va avoir un libre arbitre quand t'es petit, ça n'existe pas, vraiment. Donc je me faxais un peu par rapport aux autres, et il faut savoir que dès, je pense, la primaire jusqu'au lycée, on va dire, je me suis toujours considérée, c'est une tristesse.
Il faut dire les termes.
Si, là, vous nous écoutez dans vos oreilles, mais si vous voyez la tête que Pauline a, c'est vraiment genre une tête de compassion, en mode... Allez, vas-y ma grande, vas-y, t'es forte. Je me suis toujours mise en tête que dans mon groupe d'amis, j'étais la pote moche. Alors peut-être que ça va sonner chez certains d'entre vous, vous allez vous sentir un peu compris à travers ce que je vais dire, mais j'arrivais pas à avoir beaucoup confiance en moi, en tout cas physiquement parlant, parce que intellectuellement, je me suis jamais trop posé la question, genre ça va, tu vois. Mais physiquement, sachant que toutes les meufs avec qui j'étais, parce que quand t'es petit, tu traînes souvent plus avec des gens du même genre que toi, quoi. Et toutes les petites filles avec qui j'étais, à chaque fois, elles parlaient que de mecs. Donc du coup, elles, forcément, elles sortaient avec des garçons, machin. Et moi, comme j'étais un peu dans l'entre-deux, en mode j'y vais pas, du coup, j'avais pas d'amoureux. Donc ça a commencé à me créer ce complexe-là de, en fait, c'est parce que je suis moche. Donc ce qui s'est passé après coup, c'est qu'en grandissant, je disais oui à tout le monde. Dès qu'il y avait un garçon qui venait vers moi en me disant « Hey, tu veux sortir avec moi ?»« Ouais. » ok, on y va, tu vois, alors que je n'avais pas du tout envie. tu ne me donnes pas envie sans côté sexuel, bien sûr, parce que t'es trop jeune à ce moment-là, mais j'ai pas juste envie d'avoir une relation avec toi. Mais bref, donc du coup, je disais oui, oui un peu à la terre entière. Et ça, je pense que ça m'a suivi jusqu'à ma toute première vraie relation, on va dire, au lycée. Et avec qui, enfin un mec avec qui je suis sortie pendant un petit bout de temps. Et c'est un peu la deuxième partie là, que je suis en train d'introduire, l'air de rien. Mais la deuxième partie justement de ce côté amoureux, relationnel qui arrive, où là t'es plus consciente de toi qui t'es, de tes envies, mais en même temps tu sais pas non plus trop encore comment te positionner. Et c'est donc la période du lycée et souvent des premières relations. Donc, je sais pas si tu veux que je continue, si tu
vas-y,
veux.
Vas-y, okay. Que des flambeaux.
Donc, ces fameuses premières fois de relation en couple, mais enfin, relation, on va dire, plus, pas celle que tu vas avoir au collège où c'est enfin, t'as pas vraiment de sentiments qui rentrent en jeu, sauf exception, bien sûr. Mais donc, moi, j'ai eu en tout, en cumulé au lycée, j'ai eu deux longues relations. Et donc, la première, je suis rentrée dedans. En me disant bah ouais d'accord ok c'est un garçon qui veut sortir avec moi, j'avais pas vraiment parlé avec lui, je savais pas vraiment qui c'était et lui il m'a dit ouais bah je t'aime bien, je fais d'accord ok parce que de toute façon si je lui dis pas oui je vais me retrouver toute seule et toutes mes copines elles vont avoir un mec et puis en plus t'as la question de la sexualité aussi au lycée qui commence déjà à rentrer en compte, genre ça moi je m'en suis rendu compte je sais plus quand on avait parlé la dernière fois, mais que genre au lycée 80% des discussions ça tourne que autour du cul. Alors que c'est que des gens qui n'ont pas couché.
Mais dès le collège,
à ce stade-là.
Hein. Dès le collège, moi je me rappelle avoir été trauma au collège. Les filles ont commencé à avoir nos règles, à être formées, etc. Et t'as déjà des remarques, t'as déjà les mecs qui sont en mode site porno et compagnie.
Ouais.
Et t'es là en mode waouh, tout va beaucoup trop vite. Et je pense que de manière générale, tout ce qui touche à l'éducation sexuelle, c'est tellement mal géré. Enfin, je trouve à l'école, partout, on n'explique rien, on n'explique pas le consentement, on n'explique rien du tout. Et on se retrouve au collège à entendre des brides de trucs. Et t'es là, en tant que fille, surtout, tu commences à être formée, tu commences à avoir des regards qui sont pas les mêmes que d'habitude.
Ouais.
Tu paniques. Et ça te crée un truc où tu as envie de te renfermer sur toi et d'être en mode personne ne m'approche, tu as envie de te cacher. Moi, je sais que j'ai été très vite formée, je mettais des écharpes au collège, mais de septembre à juin, j'avais des écharpes et des pulls larges.
Ouais, serre-moi la main.
Donc ouais, non, t'as toute la notion de la sexualité qui arrive et qui biaise toutes les relations un peu enfantines que tu peux te faire dans ta tête.
Ouais. Et puis tu sais effectivement que l'intérêt qu'on va avoir pour toi à cette période-là, enfin, en tout cas moi ce que j'avais en tête c'est que je me disais en fait ça n'a rien à voir avec si je suis drôle, si je suis intéressante, si je suis intelligente ou quoi que ce soit, c'est parce que justement comme tu disais bah, je commence à ressembler un peu plus à une femme, donc on s'intéresse principalement à moi à cause de ce truc-là, pas grâce hein, parce que là vraiment tu subis des réflexions, des regards qui sont très 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 désagréables. Et donc ouais, donc je suis rentrée dans cette première relation, au final j'étais pas giga heureuse, c'était sympa mais sans plus, je mettrais une note de 5 sur 10.
Merci d'être passée.
À cette expérience, voilà, merci pour, pour toutes ces belles choses qu'on a faites ensemble, c'est-à-dire rien. et donc bref, donc je suis restée avec ce mec-là pendant un an et demi, donc ça a été ma première vraie relation de couple. Donc il dit vraie relation de couple quand t'es au lycée, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, on a eu nos premiers rapports, voilà, j'essaie de le dire avec un joli mot, et rapport c'est hyper chouette.
C'est le terme.
Rapport sexuel. Et donc bref, donc pareil, ça c'est... Enfin, on en fera un épisode entier, c'était ce qu'on s'était dit avec Pauline, très focus sur... le rapport que t'as avec ton corps, donc j'en parle pas là d'entrée de jeu de la première fois et tout machin, mais bon, en tout cas en termes de relation couple, très très particulier. Et après, donc j'ai eu ma deuxième relation, où là c'était une relation beaucoup plus longue, puisqu'on est resté entre 3 ans et demi et 4 ans, pour cette relation-là ensemble, hein, je mettrais une note de...
C'est parce que tu voulais être restée où ? En mode sur le parking du collège ? T'as vraiment pris ensemble ?
On sait pas,
tu vois. Au cas où ils sont restés ailleurs pendant 3 ans et demi, 4 ans, enfermés.
Mais oui, mais toi, ça a du sens dans ta tête, ça a du sens dans la mienne, parce que vas-y, on en a déjà parlé. Mais peut-être que...
Pour les gens qui... T'avais resté 3 ans et demi, 4 ans, car ouf !
T'es chiante! T'es super chiante! Bon.
Donc ils sont restés 3 ans et demi, 4 ans ensemble.
Ne vous méprenez pas. Hein. C'est vraiment main dans la main tous les deux. T'es relou. Elle pousse des cris en plus. Elle rigole parce que juste après, c'est toi qui parles de tes relations,
oui.
Là. Malinette. Blondinette, Malinette et Pétarade. C'est les trois surnoms maintenant de Pauline. Bref.
Allez.
Donc cette relation. Main dans la mano, là. Je mettrai une note de 8 sur 10 pour l'expérience. Donc bref, c'était très chouette, mais je pense qu'on reviendra sur ce truc-là un peu après, parce que Pauline, un jour, elle m'a parlé du fait d'être meilleure pote avec les gens, et du coup, je suis trop d'accord avec cette théorie, mais on en parlera après, donc je veux pas trop accélérer le truc. Mais bref, cette relation-là, c'était mon meilleur pote, donc c'était trop bien. Et la relation d'après, on n'en parlera pas, parce que je suis pas prête.
Warning, voilà. warning. Il y a des choses. À tous nos ex qui doivent écouter, vous n'êtes pas les stars.
Ah, moi, il n'y en a
c'est
aucun.
Nous. C'est nous les stars.
Moi, il n'y en a aucun qui écoute, ils m'ont vraiment tous bloqué.
Sûrement pas pourquoi. Je n'ai pas d'ex officiel.
Mais justement, c'est marrant que tu dises ça, Pauline. Est-ce que toi, tu peux nous parler de tes premières relations?
Bah ouais.
Chacun son tour.
Chacal. Alors, moi. En vrai, ça me saoule d'en parler, je tiens à être honnête avec vous, parce que c'est un truc qui est grave tabou, même de moi à moi-même. Mmh. J'arrive jamais à vraiment accepter mes relations, savoir ce que j'en ai pensé. J'essaye de les foutre sous le téco, là, comme ça, et ne jamais les re-regarder. Mais déjà, faut savoir que j'ai commencé au collège par créer un complexe où je me suis rentrée en crâne, dans le crâne, pardon. Je me suis rentrée en crâne, dans le crâne aussi. J'aurais jamais de copain. Je sais pas pourquoi, c'est une croyance que je me suis forgée, où je me suis dit « je suis chum ». Je suis pas intéressante, toutes les autres filles elles sont plus mignonnes, plus sympas que moi, ça sert à rien, enfin limite ça allait avec le truc de l'écriture, genre je suis moche, je pue, j'écris mal, je n'aime pas la vie, donc j'étais vraiment en mode, moi de toute façon ça m'arrivera jamais, aucun garçon ne portera jamais ses yeux sur moi en fait, donc je suis devenue la pote sympa, j'étais la pote de tous les garçons de France, tous les garçons étaient mes amis, et dès qu'il y avait un espèce de rapport un peu plus ambigu, je fuyais, j'avais peur, j'avais une tétanie extrême parce que, comme je l'ai dit, j'ai été formée très tôt. Donc dès qu'un garçon posait un regard sur moi, j'étais en mode « ok, il va vouloir m'agresser » ou « c'est juste pour mon corps », etc. Mmh. Donc j'ai ce truc en tête depuis le début de mon collège et du coup ça crée un vrai gap entre moi et les hommes parce que je n'arrive pas à leur faire confiance. Ce qui fait que ça m'a empêchée d'avoir des relations. Pendant très très longtemps, j'ai eu une relation fin collège, début lycée, avec mon meilleur ami de l'époque, qui s'est transformé en traumatisme intergénérationnel sur ma personne. Au final, c'était un gros con, et il m'a traumatisée, en sachant que c'était donc vraiment mon meilleur pote de l'époque. À la fin, il m'a vraiment dit genre « ouais, moi j'étais avec toi juste parce que j'avais envie de coucher avec toi ». Moi, à l'époque, pas du tout prête, donc je l'avais pas fait. Et donc j'ai perdu cette confiance en les hommes et ça a réappuyé sur ce truc de toute façon les mecs qui vont venir avec moi ça va être juste coucher avec moi. Mmh. Et donc j'ai laissé mon lycée passer jusqu'à un moment où j'ai un autre pote à moi que j'avais depuis le collège qui vient et qui me dit viens on s'aime bien. J'ai dit si tu veux.
Mais t'as vu la facilité qu'on a à un moment donné à dire ouais d'accord ok ça, ouais. Ça me va.
C'est ça et je suis rentrée dans une espèce de relation pendant 2 ans et demi, 3 ans je sais plus. Avec un garçon donc, qui était de base un de mes très bons amis depuis le collège et je pense qu'il y avait cette image où je me disais il me fera pas de mal parce que je le connais depuis longtemps donc je me sentais sécurisée même si notre relation n'était pas du tout sécurisante dans ma tête j'étais je le connais, j'ai pas besoin de faire les présentations, je savais qui c'était, où il habitait, je connaissais ses parents, sa famille et tout donc je me sentais en sécurité mais malheureusement en fait la relation elle-même n'était pas du tout sécurisante, j'ai trop perdu confiance en moi, officiellement on était en espèce de plan cul, mais pas assumé, et en même temps il y avait des bails où c'était pas ça, c'était à moitié du couple sur les bords, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup, moi j'ai pété des câbles des dizaines de fois parce que c'était pas clair en fait, et j'ai beaucoup souffert de ce truc de c'est pas du tout clair, on avait une espèce de relation de couple mais sans se le dire, mais en même temps non, mais en même temps oui, et ça a traîné sur des années même encore après, en mode un truc un peu inachevé qui a continué, et ça m'a empêché d'avancer sur plein de domaines de ma vie. Et après ça, j'ai eu une deuxième relation où je me suis dit « Ok, maintenant, j'ai tellement souffert de ne pas avoir le mot « couple » officiel que à partir du moment où un mec va me dire « Je veux être en couple avec toi », je vais dire « Oui ». Donc, comme toi, t'as fait. C'est-à-dire qu'un mec arrivé m'a dit « Bonjour, je t'aime bien, t'es sympa, t'es mignonne, on se met en couple ». J'ai dit « D'accord ». Je savais pas qui j'étais, je savais à peine qui il était. Et au final, ça a été mon ex toxique de l'épisode sur les relations toxiques, où juste la vie m'a dit, frère, pourquoi tu t'obstines à être dans des relations alors que tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu veux. Et en fait, depuis ça, j'ai arrêté les hommes. Enfin, de manière générale, les hommes, ça a été ciao pour moi. Et depuis, je vis un blocage perpétuel. Donc, j'ai pas de solution. Salut, merci, au revoir. Je raccroche le micro. Non, juste, ça m'a créé un traumatisme. Et du coup, maintenant, je suis vraiment en mode, voilà. Entre la relation où t'es semi en couple et tu vis toutes les émotions du couple, mais officiellement, tu l'es pas, donc tu perds trop confiance en toi, t'es en mode, pourquoi on veut pas m'assumer ? Et l'autre où t'es en mode, je suis en couple, mais on me traite trop mal, j'ai fini par me dire, je mérite pas le couple sain.
Parce que t'as une pression en même temps de la part des autres, alors qu'elle n'est pas forcément non plus formulée de la part de tes potes, genre « Hey Pauline, trop bizarre, machin », ou de la part de ta famille, bon ça dépend des fois. mais t'as une pression de ouf quand tu vois tes potes, quand t'es plus lycée que collège, mais qui sont tous en train de faire leur première fois, machin. Enfin, la pression de la première fois, je pense qu'on l'a tous vécu, n'importe quelle génération, la vie. Peut-être qu'à un moment donné, on va un peu découdre ce truc-là. Mais t'as toute une pression autour de ça, que du coup, t'essaies de te convaincre toi-même que « mais si, c'est ça que je veux ». Donc tu vas aller te rusher dans une relation dont t'as pas forcément envie... à l'instant T, et tu vas te rusher dans tes premières fois, tes premières interactions, tes premières ruptures aussi, et c'est horrible parce que psychologiquement t'es pas prêt, et ça refait encore le parallèle avec d'autres choses qu'on disait dans je sais plus quel épisode, de t'es en pleine phase où t'apprends à te connaître physiquement, parce que comme on disait, enfin, que ce soit pour un mec ou pour une meuf, hein, ta voix change, tu commences à être formée, tu commences à grandir, machin. Enfin, t'as déjà tout un mur que tu te prends en pleine gueule d'informations nouvelles à gérer. Et en plus, on te dit, hey, viens aller faire un truc avec un mec ou une meuf, tu vas voir, c'est pas stable, mais c'est OK.
Ouais,
non, les gars, c'est pas possible.
Mais c'est ça, t'as la pression, en fait, de te dire... en fait, si on reprend tout depuis le début, depuis que t'as 3 piges, on te dit... Depuis que t'as 3 ans, on te dit il faut que t'aies un amoureux, une amoureuse, enfin que t'avances sur ce truc-là. Il suffit qu'à un moment t'aies pas été en phase avec ça, tu crées un complexe en mode ok, ça veut dire je suis nulle, ça veut dire je suis chum, ça veut dire je peux pas. Après nous les meufs on est formés, donc le regard des gros pervers de 50 piges dans la rue, quand t'as 13 ans ça te met pas en confiance à dire les garçons, coucou, je vous adore, t'es en mode les garçons c'est tous des agresseurs et je suis désolée pour les garçons stables et sains qui nous écoutent, mais dans la plupart des mentalités des meufs, c'est ça, et moi je sais que c'est un des trucs qui m'empêche de ouf d'avancer dans tout ça, c'est que la première réflexion que tu te fais c'est les hommes, c'est des agresseurs. Et c'est horrible, mais parce que t'as ce rapport à ton corps en grandissant où tu te dis est-ce qu'on vient vers moi pour juste coucher avec moi, est-ce qu'on vient vers moi pour qui je suis, et c'est un gros truc à déconstruire, et je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà.
Donc on est passé par ces phases de primaire, de collège, de lycée. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On voudrait aborder le sujet Tinder, donc de mon expérience à moi, comme je vous l'ai dit, j'étais en couple une grande partie de ma vie. Et maintenant je suis toute seule et ça fait 3 ans là que j'expérimente la vie seule, donc pendant ces 3 ans de post-rupture j'ai eu la chance d'expérimenter plein de choses différentes en termes d'émotions, hein, bien sûr, pas tant de relations. Et à un moment donné, juste après ma rupture, il y a eu genre une journée où je me suis dit hey, c'est bon, la terre entière t'appartient, tu peux choper tous les mecs que tu veux, alors qu'il faut sachez que je fais pas partie de la team je péchote tout ce qui bouge, j'arrive pas, moi j'ai besoin de créer une relation, alors pas forcément relation de couple machin, mais j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne que j'ai en face de moi, d'être rassurée machin.
Bah, ce qui est normal quand même, un minimum.
Mais ça dépend des gens, c'est les goûts et les couleurs finalement. Et donc un jour je me suis dit vas-y let's go, t'installes Tinder. Je l'ai installé, dans les 2 heures qu'on suivit j'ai eu un date avec un mec. Le gars m'a parlé pendant à peu près la première heure de cette brève rencontre de ses problèmes intestinaux. Et je me suis dit, bah yes, c'est donc ça, Tinder. On en a parlé pendant des années pour que je rencontre un mec dans un bar nul où il m'a même pas payé mon verre. Bref, j'avais juste le seum. Et il m'a parlé. Et il m'a parlé de ces giga intestins là qui sont bouchés jusqu'à la mort, ça m'intéressait pas gros. Ça va pas, on est dans une démarche de séduction. Donc bref, après j'ai supprimé Tinder, j'ai fait c'est pas pour moi. Et là, ces derniers mois, peut-être années, je m'y suis mise. Je me suis attelée à la tâche, j'ai créé le profil, j'ai mis les photos. J'ai pas mis la description parce que je trouve
personne
que c'est
met
un peu
la
cringe.
Description, je suis désolée, mais il y a des gens qui mettent une description en mode je me présente, ça va pas ou quoi.
Après, j'ai quand même mis 2 éléments, je crois.
T'as mis tu votais Mélenchon.
Ouais, voilà. Enfin, j'ai mis une photo montage avec Mélenchon parce que qui veut matcher avec des gens de droite ? Après avoir testé les rencontres in real life, comme on dit, dans la vraie vie, c'est difficile de passer à un truc où t'es sur tes écrans. Et vraiment, j'ai 40 ans avec ce discours-là, où juste tu vois la tête de la personne et tu matches avec oui ou non. Je trouve ça difficile comme exercice. Je trouve pas ça hyper agréable. Mais d'un autre côté, je me pose la question de quand tu grandis, quand t'es plus à l'école, quand t'es plus dans justement ce schéma de lycée, de bac plus 1, bac plus truc, machin, comment tu fais ?
Tu les rencontres où, les
bah
gens ?
Bah ouais, surtout quand t'es au chômage, parce que coucou, n'oubliez pas que ici c'est chômage, les personnes qu'on voit le plus, c'est nous deux. Donc sauf si sur un malentendu, on finit par se pécho, et apparemment, ça va pas arriver. Et je mange bien mon seum. Je rigole. Quoique... Enfin bref, donc ça ne va pas arriver. C'est difficile, les garçons. Youyou. Enfin, c'est dur, quoi.
Les garçons, vous n'êtes pas trop dispo non plus. Fin...
Non, ou alors quand vous êtes quand vous êtes dispo, vous comprenez pas les appels de
sans
phare.
Sans blague. Après, on vient dans la vraie vie, on vous donne des allumettes avec nos numéros de téléphone en mode contactez-nous. Bon, il s'agirait de faire la conversation derrière.
C'est ouais, ça.
C'est mon histoire à moi. Genre, tu donnes ton numéro aux gens. D'ailleurs, faites-le, les gens. Ouais. Allez donner vos numéros dans la vraie vie, c'est super sympa.
Ça fait un boost de confiance en soi.
Ah ouais, t'y vas et tout. Et après, bon, tu vois que c'était juste un gros kiff d'adrénaline. Et après, t'es en mode, oh bah non, en fait, je rigolais. Mais il faut faire ça, c'est sympa. Parce que Tinder, c'est vrai que moi, j'y suis depuis tard l'époque. Genre vraiment, je crois que j'ai installé en seconde. Parce que j'étais toujours dans mon rapport... de toute façon, aucun mec veut de moi et je trouverai jamais de mec. Hein, voilà, ou un montage un peu sur les bords. Là, je m'engueule de moi qui a 15 ans, qui était quand même une petite fraîcheur des îles et qui n'a pas du tout assumé son potentiel.
Mais c'est vrai qu'on était belles et jolies. Enfin, on est toujours belles et
jolies. J'étais là en train de me dire, bah c'est pas grave, j'ai sur Tinder. Pauline, qu'est-ce que tu faisais ? En plus, Tinder, je suis désolée, moi je vais donner mon avis. Au début, quand t'es au lycée, c'est un peu sympa, tout le monde swipe à gauche, à droite, tu vois la France entière. Moi, j'y suis depuis que j'ai 15 ans, les gars, j'ai vu tous vos profils. Genre, je sais même pas qui vous êtes, mais s'il y a des garçons, je vous ai vus. C'est obligé.
Si vous êtes dans un rayon de 40 km, je vous ai vus. Si on se sait.
Si vous êtes à Rennes et ses aventures, je sais qui t'es. Je sais si à un moment t'as été en couple, si tu l'es plus, je vois qui t'es. Je sais ton signe astro, parce que maintenant il y a les signes astro sur Tinder. Genre, c'est fantastique. Et au final, la conclusion que j'en tire, c'est qu'à part te créer encore une fois des espèces de dépendance affective, où t'es là, au lieu de te construire toi, de travailler sur toi, t'es toujours dans ce manque et ce besoin. De mecs, enfin je sais pas, c'est chelou. Certes c'est cool quand tu veux rencontrer quelqu'un, que t'es un peu en mode vas-y la vie c'est marrant, mais il y a des gens, moi j'ai vu des potes autour de moi qui vraiment avaient le téléphone toute la journée dans la main à swiper, et tu te dis mais t'as pas autre chose à foutre des fois. On nous pousse vraiment pas à s'autosuffire du coup dans la vie et à être en mode bah apprenez à vous découvrir, travaillez sur vos passions, sur vos relations amicales, puisque les relations amicales c'est méga important. Si déjà t'es dans des relations amicales avec des gens où t'arrives à poser tes limites, à être authentique, à être vulnérable, bah après dans une relation de couple ça se fera directement aussi. Et je trouve qu'avec Tinder, il faut juste trouver le juste milieu. Genre ouais, ça peut être méga fun, ça peut être sympa, mais faut pas le prendre au sérieux. Genre si tu vas sur Tinder en mode il faut vraiment que je trouve un mec,
ça marchera pas.
C'est ça, et que tu bouffes l'appli H24 et que t'es en mode tu vis une déception existentielle quand t'as pas de retour. Enfin moi j'avais une pote, si elle se prenait des vents ou un mec lui répondait plus, mais des coups de phase dépressive, tu vois, genre ouais, vraiment hardcore. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça représente pour les meufs? Est-ce que c'est une espèce de validation? Et envie de dire aux petites meufs, genre, mais choupette, t'es beaucoup mieux que Tinder. Genre, certes, il y a plein de gens qui se rencontrent dessus et c'est super, mais Tinder, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. Ça se trouve, l'homme de ta vie, il est à 1000 km d'ici. Tu le rencontreras lors d'une soirée dans 5 ans. Donc, pas prendre Tinder au sérieux, c'est vraiment le warning que je fais, parce que moi-même, je l'ai pris beaucoup trop au sérieux à des moments en mode je veux rencontrer l'homme de ma vie. Non, prendre le truc comme un jeu en mode de potentielles rencontres, des potentiels potes, et s'arrêter là, parce que sinon, ça peut beaucoup trop bouffer le crâne.
Ouais, merci. De ouf. Et puis en plus, t'es encore trop à la course, ça. Tu veux pas être toute seule parce que tu vas avoir des réflexions que tu te remanges dans le crâne, où là ça fait le parallèle avec ce qui se passe quand t'es justement en maternelle, là, ce dont on disait au début de l'épisode, de « alors est-ce que t'es un amoureux, machin ?» Nous, pour en avoir parlé, Pauline et moi, on se le mange encore aujourd'hui dans la tête, genre quand on va voir typiquement nos parents, coucou à eux, vraiment, de « alors t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment ?»« Alors t'as ci, alors t'as ça ?» Là,
là.
Vraiment, bof, deux secondes, quoi. Genre, vraiment, laissez-nous respirer deux secondes, c'est pas notre priorité. C'est des choses qui arrivent justement au moment où t'es pas en recherche de, comme disait Pauline, il me faut un mec, il me faut une meuf, il me faut un truc, machin. C'est quand t'es pas dans cette recherche-là que justement tu fais des rencontres cool. Parce que t'es disponible mentalement et c'est pas tous les scénars, tous les films que tu te fais en tête de potentiellement si je me rends à cette soirée-là, je peux rencontrer un mec ou une meuf et donc je vais aller le voir, je vais commander au bar et puis là il va me prendre par la main et puis on va s'embrasser, nanana. Ça se passe jamais comme ça. Mais et on le sait tous autant qu'on aime, mais comme meuf, parce que les mecs, ils sont les mêmes scénars que nous, ça n'arrive jamais. Donc c'est au moment où tu commences à libérer de la place dans ta tête, à dire « Ok, j'arrête de me faire ces scénars-là », que potentiellement, ça peut arriver.
Et puis travailler sur tes croyances limitantes. Moi, ouais. Je sais que c'est un truc avec lequel je bute encore, c'est-à-dire réussir à te dire « C'est pas grave si t'es célib, c'est pas grave si t'as pas eu l'amour de ta vie maintenant, si... » Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup ce truc-là où je me dis « Putain, je vais avoir 24 ans, j'ai pas eu de mec officiel, j'ai pas de métier officiel, et t'as l'impression que ta vie, c'est de la merde, et t'as tes potes autour de toi qui prennent leur appart avec leur mec, qui sont en couple, qui font des projets, t'es en mode « Mais pourquoi je suis autant une merde ?» Et en fait, ce qui est méga important, ce qu'il faut se répéter pour toutes les meufs qui sont célibes et tout, c'est se dire, les gens qui sont maintenant en couple, c'est parce qu'ils ont l'espace de le faire, parce que c'est leur parcours de vie. On a tous un chemin de vie différent, et peut-être que pendant que vous êtes en train de travailler sur, je sais pas, vos traumas, vos études, ou votre relation avec vos meilleurs potes, ou vos parents, bah il y a des gens qui n'ont pas ce travail-là à faire parce qu'ils ont un autre chemin de vie, et eux ont de la place pour être en couple, et c'est pas que t'es en retard, c'est que t'as un chemin différent, et c'est super dur de se foutre ça en tête, surtout quand on te fait penser que si à 30 piges t'es pas mariée avec 4 gosses, t'as raté ta vie.
Ouais.
Pendant tout ce temps-là, je fais d'autres choses, et ma valeur n'est pas que mon statut, comment on dit, matrimonial, non, c'est pas ça ?
Je sais pas.
Mon statut en couple célibataire, veuve, tu vois.
C'est horrible ce que j'ai dit.
Mais non, mais
Pauline n'est pas veuve.
Non, je suis pas veuve. Mais je le redis.
Mais ça peut arriver.
Sur un malentendu. Mais je me dis juste que on fait tous nos chemins. Et moi, je me rends compte en ce moment que j'ai peur. Des fois, je me dis putain, je vais finir vieille fille et tout. Mais qui vieille fille même ?
Non.
Qui a dit que t'étais. Enfin, ça, c'est une putain d'injonction encore où tu te dis les meufs célibataires à 30 ans, elles ont raté leur vie. C'est faux en fait. Il va s'agir d'arrêter, parce que ça nous fout d'une pression monumentale, comme si entre les études, le travail, les potes, le financier, la psychologie et compagnie, on n'avait pas cette pression, plus la charge mentale des femmes. Coucou le patriarcat. C'est bon, ça suffit au bout d'un moment, laissez-nous être célibataires.
Donc toi, tu sais ce que tu veux maintenant, ou justement, tu te poses pas la question, là, t'es un peu en mode je laisse ça de côté, je verrai plus tard, ou comment tu te positionnes, là ?
Bah, en fait, pendant longtemps, je savais pas ce que je voulais. J'avais des petits crushs, j'avais des petites relations, des mecs que j'allais pécho à gauche à droite, mais rien de sérieux. Et à chaque fois, ça fonctionnait pas. Il y a pas longtemps, je me suis un peu posée, je me suis dit, ok, je supprime toutes les applis de rencontres, je calcule pas les mecs, et juste, je me pose sur moi, où j'en suis dans ma vie, ce que je veux, et quelles sont, bah, comme j'ai dit, mes croyances limitantes. Que revenir un peu sur mes expériences passées, parce que c'est horrible à dire, mais pour moi, si on va pas un peu déconstruire toutes tes relations passées, tu vas pas réussir à comprendre pourquoi elles sont arrivées et pourquoi il faut que t'avances.
Ouais.
Et à poser un peu genre ce que tu veux, ce que tu veux pas, et ça c'est un truc que beaucoup de personnes ne font pas et sont juste en mode je comprends pas, j'ai que des relations de merde. Bah pose-toi, et pose-toi la question surtout de pourquoi ce schéma se répète à 24, qu'est-ce que tu penses de toi, quelle est ton image, ton estime de toi. Et moi, je me suis posée un moment et je me suis dit, attends, où est-ce que j'en suis ? Quelle est la relation de mes parents entre eux ? Donc, l'image numéro 1 du couple que j'ai dans ma vie. Moi, mes relations passées, ce que je veux, ce que je veux pas, mes valeurs, ce qui est important pour moi. Et en fait, maintenant, je sais ce que je veux. Je veux que ce soit mon meilleur pote. Genre, je veux plus de relations où je me sens pas bien, où je suis pas en sécurité et tout. Je veux juste quelqu'un qui soit mon meilleur pote, avec qui je rigole, avec qui je passe des bons moments. Parce que c'est super dur de se dire, t'as le droit d'avoir une relation super saine, super rigolote et super stable. Genre, c'est pas réservé aux autres. Genre, tout le monde y a le droit. Et il faut se l'autoriser, en fait.
Mais le truc du meilleur pote, enfin, du coup, c'est ce dont on parlait. Et Pauline, elle me l'avait dit, il y a quelques mois de ça. Juste avant que j'ai un date, justement, j'étais stressée, machin. Et on m'a dit, meuf, imagine si ce mec-là peut être... Enfin, s'il y a matière à ce que ce soit un de tes potes et pourquoi pas ton meilleur pote. Et c'est vrai que quand je fais le bilan de mes précédentes relations, la seule où, genre, vraiment, j'ai mis la bonne note, c'est parce que le gars, avant qu'on se mette ensemble, ou même pendant toute la période où on était ensemble, ça a été mon meilleur pote. Et c'était hyper sain, et c'était un amour qui était hyper doux, et la relation était d'une douceur sans nom. Et pourtant, j'ai pas gardé ce truc-là en tête, puisqu'après, j'ai enchaîné avec une autre relation qui, pour le coup, voilà, n'est pas folle, parce que bah, le gars, j'en ai pas... Enfin, ça n'a pas été mon ami à un moment donné. Donc aujourd'hui, pour te suivre dans ce que tu as dit à l'instant, moi c'est pareil, je sais pas exactement si j'ai envie d'avoir une longue relation. Enfin, je me sens pas... C'est pas prête, mais j'ai pas l'impression que c'est ce dont j'ai envie aujourd'hui. Mais en tout cas, si jamais il se passe quelque chose plus avec quelqu'un, je veux que ce soit effectivement une personne avec qui je vais pouvoir rigoler, avec qui je vais pouvoir parler de tout, et c'est pas juste un truc qui reste en surface. Je veux vraiment que ce soit genre mon pote.
Mais ça, c'est Axel qu'on avait parlé aussi dans le podcast sur les relations amoureuses, où il avait très bien dit, ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle. Souvent, quand tu vas dans tes premiers dates et tout, t'as plein de gens qui sont, non mais fais la meuf, non mais fais la personne inaccessible, non mais joue ça. S'il y a une chose que j'ai compris un peu du haut de mes 23 ans, c'est plus vous allez jouer des rôles, plus vous allez vous perdre, plus vous allez attirer les mauvaises personnes. Parce que au pire, vous êtes 100% vous-même, ça fait peur parce que t'es vulnérable, parce que t'es authentique, tu risques de te faire rejeter pour qui t'es. Mais au moins, t'es pas sur des fausses relations. Et quand tu joues une fausse personne, moi je sais que mes relations passées, je jouais la meuf un peu inaccessible, en mode j'ai pas d'émotion, je m'en fous, je veux pas me prendre la tête, je veux pas vraiment être en couple et tout. Bah j'ai attiré des gens qui renvoyaient cette énergie-là. Si vous êtes ok avec vous-même et que vous vous alignez avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, et bah c'est ok en fait, et vous allez attirer les bonnes personnes. Se dire ouais je veux être en couple là dans ma vie, c'est pas être faible. Se dire non là je veux pas être en couple, c'est pas être faible, ou c'est pas être fort, enfin vous voyez, c'est juste être vous-même. Et ça je trouve que c'est super important de le redire, il n'y a pas de jeu.
Mais justement à partir du moment où t'as commencé à jouer un jeu, jouer un rôle pendant toute la période de date, de trucs, de machin, de relationnel, le derrière, quand tu te récupères toi, où t'es en mille morceaux, où tu dis putain, qui je suis en fait, qui j'ai été pendant X temps qu'a duré la relation, c'est d'autant plus dur, enfin c'est tellement, enfin c'est pas un jeu comme dit Pauline, les relations, enfin c'est... Vous êtes deux, c'est deux êtres humains avec des sentiments chacun, avec des personnalités différentes qui peuvent oui ou non se compléter. Et c'est hyper important. Enfin, ça fait très con à dire, mais il faut s'écouter, machin. Mais c'est tellement important. Et prendre conscience, comme on a dit tout à l'heure, des traumas que tu as pu avoir de tes précédentes relations et savoir pourquoi tu agis de telle manière. Même mettre des warnings à la personne que tu rencontres si tu sens que tu es assez à l'aise avec cette personne-là. Mettre des warnings de bah voilà pourquoi je peux réagir comme ça, ou voilà comment ça s'est passé dans la précédente relation, donc ne sois pas étonnée si à un moment donné j'agis comme ça. Donc c'est ouais le plus important à retenir. Et je sais pas si t'as...
Bah juste pour dire que souvent on parle, moi je sais que pendant très longtemps je me posais la question de me dire comment ça se fait que personne soit en couple avec moi, et j'avais l'impression d'être en mode tout le monde est, je vais que vers des personnes indisponibles émotionnellement. Jusqu'au jour où, je crois que c'était dans un podcast que j'avais écouté ça, une meuf qui disait, mais quand t'as l'impression d'attirer que des gens émotionnellement disponibles, pose-toi la question, est-ce que toi t'es disponible ?
Ouais.
Et en fait, souvent on pense être disponible, on pense avoir envie du couple, mais où on sait pas pourquoi, on sait pas ce que ça représente à nos yeux, pourquoi on veut ça, est-ce que c'est par envie, par validation ? Et le vrai couple authentique, le vrai amour authentique, il a pas de règles. Donc si vous avez l'impression d'être dans ce schéma-là, comme l'a dit Lisa, faites un petit travail sur vous-même, posez-vous quelques questions sur votre rapport aux relations, les relations qui vous entourent, votre vision de l'amour, pourquoi vous voulez être en couple, qui t'entoure. Et en fait, vous allez voir que beaucoup de choses vont peut-être s'éclaircir autour de vous. C'était votre copine psy.
On espère que l'épisode PS, on n'a pas pécho, vous a plu. On a encore raconté plein de choses. Dites-nous aussi, vous, envoyez-nous des petits messages sur Insta, @tarlepoque. Faut nous suivre les guys. C'est là-dessus qu'on interagit le plus avec vous. Donc même si vous avez des petites recommandations, des avis, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, envoyez-nous un petit DM et on est toujours hyper contente de vous lire. On vous remercie encore.
Racontez-nous vos petites vies, on adore ça.
Oui, ah oui, de ouf. Donc on vous remercie fort de tous les messages, tout le soutien que vous nous envoyez. C'est trop cool. On espère que cet épisode vous a plu. Et voilà quoi.